Disait, bonsoir. La différence entre la matza et le chametz, essentiellement, c'est le temps. C'est-à-dire, c'est un temps qu'on laisse s'écouler sans agir. C'est-à-dire, vous prenez une pâte minimale, c'est-à-dire de la farine, de l'eau. Et vous malaxez, vous en faites une pâte. Si vous continuez de la travailler, vous pouvez continuer à la travailler très longtemps. Ensuite, vous la passez au feu, ça deviendra une matza. Mais si, une fois que vous avez votre pâte, vous ne continuez pas à la travailler, vous la laissez évoluer sans agir. Donc, ça veut dire qu'elle va intégrer du temps, si vous voulez, un temps où vous êtes passif, elle va devenir chametz. Et donc, la différence entre le chametz et la matza, c'est une question de rapidité, en quelque sorte, d'investissement complet dans la fabrication de la matza. Quand si je suis sans arrêt en train de travailler la pâte en question, même si ça dure longtemps, elle ne deviendra pas du chametz. Donc c'est un temps où j'ai abandonné en quelque sorte le temps à, je lui ai laissé, je laissais le temps se dérouler sans être rempli par une quelconque activité. Il y a un passouk concernant la matzah qui dit Ushmartem et amatzot. Littéralement, vous garderez, vous ferez attention aux matzot. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention aux matzot? Faire attention à ce qu'elles ne deviennent pas chametz. Faut être vigilant et toujours occupé à fabriquer la matzah. Agir. Pour l'empêcher de devenir chametz. Alors, il se trouve que quand vous lisez le verset Ushmartem etam matzot, vous pourriez tout aussi bien lire Ushmartem etam mitzvot. Matzot et mitzvot, ça s'écrit exactement de la même manière. Et Chazal ont effectivement enseigné qu'on va prendre modèle sur Ushmartem et Tam Matzot pour définir une certaine attitude dans l'accomplissement des mitzvot. De même qu'on doit avoir une certaine attitude dans l'accomplissement de la matzah, de même il faut avoir une certaine attitude dans l'accomplissement de la mitzvah, des mitzvot, écrit sur le pluriel. Matzot et mitzvot. En d'autres termes, on va apprendre que si on regarde ça négativement, si effectivement on n'a pas cette attitude correcte par rapport aux mitzvot, alors de même que si on n'a pas cette attitude correcte par rapport aux matzot, elles deviennent chametz. Alors on dit la même chose. Si une mitzvah à Bal Yadcha, une mitzvah se présente à toi, alors al tachmitzena, ne la laisse pas devenir chametz. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que on doit avoir une attitude qui s'appelle, qui est une certaine mida, une certaine façon de vivre, qui s'appelle zrizut. Zrizut, zariz, certains traduisent par zélé, pour avoir, bon, parce que ça commence aussi par un Z, quoi. Zariz. Les arises, ça veut dire quelqu'un qui Fais les choses immédiatement et rapidement. Alors, on voit que cette mida, c'est une mida, c'est-à-dire c'est une mesure, c'est que c'est une mida comme toutes les autres midot. N'est-ce pas? Par exemple, dans Mesilat Yesharim, quand il fait la liste des fameuses mitzvot, midot, pardon, et comment ça s'appelle? On parle de la zehirut, c'est une certaine forme de vigilance, et ensuite de zerizut, ce zèle ou cette façon de faire les choses immédiatement, sans délai, pas traîner, comme ça. Alors, cette mida, elle est particulière parce que elle joue un rôle fondamental dans la fa fabrication des matzot, et par analogie, si vous voulez, elle joue aussi un rôle dans l'accomplissement des mitzvot. La zrizout, c'est une qualité qui est requise dans la avodat Hashem, dans le fait de servir Hashem. Et donc, les Chachamim ont donc comparé, et ils ont presque mis sur un plan d'égalité, l'accomplissement d'une mitzvah sans zrizout au fait d'avoir laissé une pâte devenir chametz. Il est clair que dans la fabrication d'une matzah, le fait de manquer de cette zrizout, c'est pas que tu vas avoir une matzah à laquelle il manque une certaine qualité, c'est-à-dire on aurait pu faire mieux. Non, s'il n'y a pas la zrizout nécessaire, la matzah n'est pas du tout kasher. C'est pas que c'est une matzah de seconde qualité, si vous voulez. Et donc, si je transfère ce même raisonnement sur la mitzvah, ça voudrait donc dire que faire une mitzvah sans zrizout, ce n'est pas avoir fait une mitzvah à laquelle il manquerait simplement un an plus, mais c'est que la mitzvah n'en est plus une. La mitzvah, elle a ce qu'on appelle un pgam, elle a un défaut. C'est une mitzvah qui n'est pas faite de la bonne manière. C'est pas simplement qu'elle n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être. Quelque part, si on applique l'analogie, la mitzvah en question, elle n'est pas, c'est pas vraiment une mitzvah. Elle n'a pas sa vraie dimension de mitzvah, si on applique l'analogie jusqu'au bout. Celui qui s'est occupé directement de ce sujet-là, c'est le Maharal de Prague. Et il a ajouté sur le Inyan de, contre Hazal, on dit Mitzvah Abba Liyadcha Al Tachmitzena, une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas devenir Chametz. Le Maharal a expliqué quel est le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dimension de temps qui s'applique ici particulièrement? Veux dire, c'est parce que si on laisse la mitzvah et si on traîne et on ne la fait pas tout de suite, on ne la fait pas comme il faudrait la faire. Alors, on montre que la mitzvah, elle est quasiment soumise au temps. Elle est entrée dans le carcan du temps. Et ça, c'est un défaut de la mitzvah. Donc, encore une fois, ce qui est très important, C'est que s'il n'y a pas de zrizout, ce n'est pas que on n'a pas non, on n'a pas l'en plus, on n'a pas fait de façon parfaite, mais elle est bien faite. Non, elle n'est pas bien faite. Alors, pour expliquer un peu ce maral, on a l'habitude, quand on parle de la notion de zrizout, de voir essentiellement la rapidité du mouvement qui est fait quand on fait la mitzvah. Vous direz qu'en quelque sorte, ça veut dire les forces spirituelles qui sont à l'œuvre, ici, les forces du corps aussi, qui viennent de ce qu'il y a une volonté de faire la mitzvah, et cette volonté, elle pousse à fais-le tout de suite et fais-le rapidement. Quand on regarde la zrizout de cette manière-là, alors il n'y a absolument aucune différence si on applique la zrizout à quelque chose de profane ou qu'on l'applique à une mitzvah. Il n'y a pas non plus de différence si celui qui agit avec Zrizout, c'est un juif ou bien c'est un non-juif. Il n'y a pas seulement de différence, c'est une façon de faire. C'est pas quelque chose qui est lié à la. Ça n'a rien changé qu'on a reçu la Torah au Sinaï dans ce domaine-là. Mais en fait, ce que je vous raconte là, c'est un enseignement de Rav Yitzhak Koutner. Ce que Rav Yitzhak Koutner veut montrer, c'est que ce n'est pas comme ça. Quand nos maîtres ont dit, il y a une Gemara dans Eruvin qui dit, il m'allait, dit Torah. Si la Torah ne nous avait pas été donnée au Sinaï, alors nous aurions appris la tsniout, c'est-à-dire la retenue, la pudeur, on aurait appris ça du chat. On aurait appris l'interdit de voler de la fourmi. On aurait appris la fidélité dans le couple de l'ayona, de la colombe. On aurait appris le derech eretz, mais un tarngol, du coq. On a là une liste de quelques, disons, obligations de l'homme dans le service d'Hachem, qui en fait sont des obligations qui existent déjà dans la nature. Dans la nature du monde animal, on a déjà toutes ces midot-là, tous ces comportements, toutes ces qualités. Alors, par contre, si on regarde une autre qualité, par exemple, de la fourmi, dans Michelet, dans les Proverbes, on dit Lech el animala atzel, va voir, va prendre modèle sur la fourmi, toi, paresseux. Tu verras bien que la fourmi, elle ne paraisse jamais. Et donc, vous voyez que bien, la fourmi, elle est vue comme un modèle, mais un modèle par rapport au gazelle, par rapport à voler. C'est-à-dire qu'une fourmi, elle ne va pas toucher Un grain de blé qui a été transporté par une autre fourmi, qui est probablement marquée d'une certaine manière. Donc elle ne va pas voler un grain de sa voisine. Pourtant, on n'a pas mis dans la liste le fait que la fourmi, elle a d'autres qualités qu'on pourrait prêter. Donc on pourrait penser que ça peut nous servir de modèle aussi. C'est bien ce qu'on dit à quelqu'un, on lui va voir la fourmi, tu verras qu'elle ne paraisse pas. Et donc on voit que ne pas paraisser, par exemple, ça n'est pas dans la liste des choses dont on dit ici, nos phrases disent, si la Torah ne nous avait pas dit ça, enseigné ça, on l'aurait su quand même en prenant modèle sur la nature. Ça n'aurait pas été un modèle. Ça veut dire quoi? Justement, cette idée de d'être toujours actif et de ne pas paresser, de ne pas traîner. Justement, c'est le contraire de la zrizout. La zrizout, c'est ne pas traîner, c'est ne pas paresser. Et ça, on voit que c'est pas dans la liste des choses qu'on aurait pu apprendre si la Torah ne nous avait pas été donnée, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette Mida de Zrizout, dans cette Mida de Zrizout qui joue visiblement un rôle fondamental? Alors, on va aller regarder quelque chose qui semble être un peu hors sujet, mais on va voir ensuite comment on va revenir dans le sujet. Dans les caractéristiques du nefesh, de l'âme, il y a cette idée qui s'exprime en disant Ha nefesh lot malé. L'âme ne sera jamais pleine. C'est-à-dire, c'est jamais, on ne peut pas combler le désir de l'aneshama. On ne peut pas lui donner suffisamment pour qu'elle soit complète, comblée. Alors, dans le Midrash, on ramène pour ça, on ramène une parabole. C'est la parabole d'un villageois qui se marie avec une princesse. Et là, le Midrash dit, quels que soient les efforts du villageois, même s'il se décarcasse, même s'il s'éclate, il lui donne le meilleur du meilleur. Ça sera jamais à la hauteur pour une princesse. Ça sera jamais, la princesse ne va jamais être satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à un autre monde. Il n'y a pas, dans le monde du villageois, il n'y a rien qui puisse combler une princesse. Et en plus, une princesse, elle vit à un certain niveau. Et il peut y avoir une autre princesse qui est à un niveau supérieur à ce niveau-là. Eh bien, la princesse qui est au niveau inférieur, elle ne pourra pas combler le désir de la princesse qui est au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des strates, il y a des niveaux, et un niveau ne peut pas combler ce que le désir, si on peut parler comme ça, de quelque chose qui est au niveau supérieur. Merci. Hazal disent dans Pirkei Avot, merci. Ils disent, Chaviv Adam, Shenivra Betselem. L'homme est cher, il est précieux, parce qu'il a été créé Betselem Elohim. Il a été créé conformément au Tselem. Mais Chaviva ou Chavivim, Israël, Shenikreu Banim. Mais ils sont encore plus précieux, les Bnei Israël, parce qu'ils sont appelés Banim. Il est clair que quand on dit Lotemale, ce ne sera jamais rempli. Ça veut dire que, au niveau des banim, on ne peut pas être rempli par quelque chose qui est au niveau de ceux qui sont Betselem. C'est ça l'idée. Alors en fait, on peut se demander justement, qu'est-ce que c'est exactement ce problème de l'otemalé, qu'au niveau du Tselem, on ne peut pas être memalé, on ne peut pas remplir quelque chose qui est au niveau de Banim. Alors pour comprendre un peu mieux, il faut utiliser un enseignement du Gaon de Vilna. Cet enseignement du Gaon, il est sur la prière de Baruch Sheamar, la prière du matin. Dans la prière du, il y a donc un texte qui commence Baruch Sheamar, et dans lequel on dit, en fait, Baruch Osei Bereshit. Baruch, celui qui fait Bereshit. Mais il y a aussi une autre phrase. Il dit Baruch Omer Veose. Celui qui parle et il fait. Donc ça veut dire parfois, quand on veut parler de la création, le monde créé. Alors, on utilise l'expression Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement. Mais des fois, on dit Bereshit tout court sans dire Maaseh Bereshit. Donc, comme c'est le cas ici dans Baruch Sheamar. Alors, le gars, on explique. Quand on dit Baruch Omer Veose. Alors, la Kavana, c'est, on veut parler ici de toute la création, de tout ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Alors que quand on dit Baruch Osei Bereshit, la Kavana, c'est, on parle ici seulement de la création du temps. D'autres termes, d'après ce que dit le Gaon, le temps n'a pas été créé en même temps que que toute la création. Il y a eu une création du temps et à côté, une création du reste, de tout, de tout le reste. Et donc, nous faisons une bénédiction, Baruch, une bénédiction spécifique sur la création du temps. Le temps est créé et sa création n'est pas, si vous voulez, homogène à tout le reste de la création. En d'autres termes, si on prend cette analogie, de la même manière que le nefesh, que l'âme est dans un monde très élevé, et parce qu'il est très élevé, alors on ne peut rien lui apporter de satisfaisant qui vient d'un monde qui n'est pas aussi élevé, qui est l'autre monde à nous, si on peut parler comme ça. Et par conséquent, même ce que nous on appelle le temps, le zman, c'est aussi quelque chose qui est, bien que ce soit créé à part de tout le reste, c'est encore quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la neshama, de l'âme. Et donc, quand la neshama, en quelque sorte, peut regarder de façon un peu méprisante tout ce que le villageois peut donner à la princesse, tout ce que dans ce monde-ci on peut vouloir donner à la neshama, ça inclut aussi le zman. Bien que le zman soit supérieur au reste, plus élevé que le reste de la création, néanmoins c'est encore inférieur à la neshama. Le problème, c'est qu'évidemment, le désir de la neshama, c'est de faire les mitzvot au niveau de la neshama, c'est-à-dire à un niveau qui est supérieur au niveau du temps. Le temps, c'est encore du créé à un niveau inférieur. Sauf que parce qu'elle est mariée, la princesse ne peut pas vivre au niveau de la princesse parce qu'elle est mariée avec le villageois. Et donc, même si elle avait l'intention d'élever ce qu'elle veut faire, etc., à son niveau à elle, c'est bloqué par le fait, à cause du mariage avec le villageois, en fait. Seulement, la résultante de cet effort d'élever les choses jusqu'au niveau de la neshama, qui échoue, mais il y a quand même quelque chose de gagné, c'est que effectivement, il y a un degré d'investissement maximale, toujours à l'intérieur de la limite donnée par le villageois ou par le temps, si vous voulez, dans cette image. Et ça veut dire que la mitzvah, du coup, elle est faite avec cette zrizout, avec cette vitesse et cet investissement, cette intensité particulière. J'aurais pensé que on pouvait essayer de donner un autre exemple. Si par exemple on veut envoyer une fusée et on veut qu'elle sorte de l'attraction terrestre, donc on va lui donner une vitesse qui va lui permettre d'échapper à l'attraction terrestre. Mais il y a l'attraction terrestre. Alors, Si on est dans une situation où la fusée, elle est trop terrestre, elle peut pas. Mais elle va, on lui a quand même donné une vitesse supérieure à la vitesse qu'on lui donnerait pour un voyage qui soit d'emblée prévu pour rester à l'intérieur de l'attraction terrestre. Donc, ce qu'on aura gagné, c'est que c'est vrai qu'on n'arrivera pas à sortir de l'attraction terrestre. Mais on aura atteint quand même une vitesse qui est presque la vitesse qui permet d'échapper à l'attraction terrestre. Ça, c'est ça la Zrizout, en fait. C'est pour ça que Zrizout, c'est une mitzvah tout à fait particulière. Donc, ça veut dire quoi? La Zrizout, quand on parle de Zrizout au sujet de Pessah, on appelle ça Chipazon. Tu auras dit que les Bnei Israël, justement, ils sont sortis de Mitzrayim avec le Chipazon. C'est ce Zrizout-là, spécifique. Bien entendu, quand on parle de ce Chipazon, on ne veut pas dire que l'événement n'a pas pris de temps. Ça ne vient pas nous dire que ça s'est fait tellement vite que c'est pas ça le. Mais comme nous l'a enseigné le Maharal, ça veut dire que puisque la sortie d'Égypte, c'est un Bereshit. C'est-à-dire, c'est un commencement. C'est un commencement, c'est le commencement de quoi? C'est la naissance du clan Israël, c'est le commencement du clan Israël. Qu'est-ce que c'est la caractéristique du clan Israël? Le clan d'Israël, c'est le peuple d'Hachem. Donc, c'est le peuple qui est en charge de réaliser le projet divin. Donc, la caractéristique, c'est que ça s'appelle en hébreu Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Le clan d'Israël a ce caractère d'éternité. Puisqu'il doit amener le monde à son terme, en quelque sorte. C'est-à-dire amener le monde à la fin de ce Olam Hazeh, l'entrée dans Olam Haba. Et donc, quand est-ce que ça commence, ça? Quand commence ce Netzach Israël? Ben, il commence au moment de la sortie d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte est le Bereshit du Netzach Israël. C'est aussi le Bereshit d'Israël, mais c'est le Bereshit, justement, de cette idée qui s'appelle Netzach Israël, c'est-à-dire la naissance de cette notion abstraite, un peu, qui est habitée par toutes les générations, qui s'appelle Knesset Israël. D'accord? Le rassemblement d'Israël. Et par conséquent, le clan d'Israël, la Neshama, quelque part, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps. C'est pas, il est, le clan d'Israël n'est pas inscrit dans le temps. Il n'est pas limité dans le temps. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle doit se dérouler d'une certaine manière au-dessus du temps. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la sortie d'Égypte, elle était Bechipazon. Alors, pour un peu expliquer cette notion de Netzach Israël, cette idée de cette éternité d'Israël. C'est pas cette éternité-là, c'est pas que ça va durer une infinité de temps, mais que cette infinité de temps, c'est simplement une prolongation sans fin du temps. C'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. C'est quelque chose qui vient dire une relation particulière, spécifique à Knesset Israël avec le temps. C'est-à-dire le lien particulier du clan Israël qui est cette éternité en fait, ça crée dans le clan Israël une pression pour sortir du temps, effectivement. Et donc ça génère la nécessité de faire les mitzvot avec zrizut. Une zrizut qui est inhérente aux mitzvot. C'est pas un en plus. C'est ça qui va donner aux mitzvot cette dimension qui leur permet d'avoir un impact au-dessus du monde. En d'autres termes, le chipazon de la sortie d'Égypte est de façon générale la zrizout dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. C'est deux faces de la même pièce. Cette pièce, elle s'appelle Netzach Israël. Donc, ce qu'on a obtenu là, c'est que la mida de zrizout, elle a en elle toutes sortes de niveaux. La zrizout, c'est pas, il n'y a pas une seule zrizout, il y a des niveaux de zrizout. Le niveau le plus bas de la zrizout, c'est cette rapidité, etc., dont on a dit que bon, c'est quelque chose qui est pas spécifique au Bnei Israël. Que ce soit un Ben Noach ou un Ben Israël, que ce soit profane ou Kodesh, c'est toujours la même dimension, la même démarche de faire les choses très rapidement et de les faire intensément et de les faire tout de suite. Mais au niveau le plus élevé de cette zrizout, en réalité, alors elle est comparable à la Neshama. C'est-à-dire que de même manière que la Neshama, elle méprise en quelque sorte le temps, il s'agit de faire les choses dans la dimension supérieure au temps, c'est-à-dire l'éternité. Et de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir avec les Bnei Noach. Et ça n'a rien à voir non plus avec tout ce qui est profane. C'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qui est lié à la Avodat Hashem du clan Israël. Alors, le gain de toute cette affaire, c'est que la trace de la zrizout, cette trace qu'on voit dans le monde animal, dont on a parlé, C'est la trace du niveau supérieur de la Zrizout. Parce que la Zrizout de la Nemala, la Zrizout de la fourmi, c'est clair que, bien entendu, la fourmi, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas un programme, etc. Comme Chazal disent, elle ne vit que 6 mois et elle va manger un grain de blé et demi toute sa vie, quoi. Et néanmoins, elle va mettre de côté des tas de grains, quantité beaucoup plus grande de grains que ce qu'elle va consommer. Sauf que sa zrizout, justement, son zèle, le fait qu'elle n'arrête pas, c'est parce que elle s'occupe pas du temps, en quelque sorte. Elle n'a rien à voir avec le temps. De telle sorte que c'est vrai que la fourmi peut servir de modèle pour la zrizout, au sens où, comme on le dit dans les proverbes, l'echel anamala. C'est par rapport à la notion de netzach, la notion d'éternité. Être en dehors du temps, finalement. C'est pour ça que on ne dit pas qu'on aurait appris la zrizout de la Nemala, si la Torah, parce que c'est une autre chose. Donc, d'après le Maral, si quelqu'un fait une mitzvah sans zrizout, alors, il fait un bgam, il met un défaut dans la mitzvah. Parce qu'il traîne. Parce qu'il ne la fait pas tout de suite. C'est-à-dire, il montre que la mitzvah, pour lui, la mitzvah, elle est soumise au temps. Et c'est parce que la zrizout, dans la Avodat Hashem de Knesset Israël, veut dire que on se libère complètement des contraintes du temps. On voudrait que les choses ne prennent pas de temps. Et d'un autre côté, traîner dans l'accomplissement d'une mitzvah, c'est-à-dire mettre du temps dans l'accomplissement d'une mitzvah, c'est en quelque sorte ramener la mitzvah à l'intérieur du cadre du temps. Alors, vous vous souvenez, on a dit que la sortie d'Égypte et la mitzvah de Korban Pessah, etc., ça a été dit dans la paracha qui commence à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, etc. Que la libération de la contrainte du temps, c'est-à-dire le fait de dominer le temps, de maîtriser le temps. Parce que ce premier verset d'Achodesh Azelachem, c'est la mitzvah de Kiddush Achodesh, la mitzvah qui permet au Bnei Israël de dire quand commence le monde, quand commence le mois, pardon. Ça veut dire que les moadim, les fêtes, qui sont des rendez-vous avec Hachem. Alors, quand deux personnes ont rendez-vous, et qu'il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre, alors très souvent, celui qui est important, c'est lui qui il convoque l'autre quasiment à un rendez-vous. Il lui demande quasiment même pas si ça lui convient, quoi. Il dit, tu viens tel et tel jour. Et effectivement, les Pessah, c'est écrit, Hachem a dit, c'est le 15. Soukhot, ben c'est le 15 Nissan. Soukhot, c'est le 15 Tichri. Donc voilà, c'est Hachem qui a décidé. Et donc c'est un rendez-vous, mais qui nous est imposé de l'extérieur, imposé par Hachem. Mais en réalité, ce n'est pas vrai du tout. En réalité, Hachem a bien dit que ce sera le 15, mais c'est nous qui disons quand sera le 15, puisque c'est nous qui disons quand sera le premier. C'est parce que le tribunal de Yerushalayim qui proclame le nouveau mois, il est souverain. C'est-à-dire, il n'est pas lié par le fait que deux témoins sont venus et ont dit, on a vu la nouvelle lune. Ils ne sont pas obligés de dire le jour même. Le mois est commencé. On sait très bien qu'il y a des situations où on ne veut pas. On ne veut pas justement fixer ce jour-là parce que, par exemple, ça ferait en sorte que Yom Kippour serait juste avant ou juste après Shabbat, ce qui ne nous convient pas. Alors, si les témoins viennent pour le mois de Tishri et ils disent, on a vu la nouvelle lune, et le tribunal vérifie que, bon, c'est vrai, ils ont vu la nouvelle lune. Et s'il disait ce jour-là, voilà, c'est le premier Tichri, Yom Kippour tomberait vendredi ou dimanche, si vous voulez, alors on dit non, on dit rien. Le tribunal ne déclare pas le mois commencé. Il va le déclarer le lendemain seulement. Pardon? Alors, c'est pas. C'est pas la zrizout, c'est le fait qu'on est au-dessus du temps. La zrizout, c'est une démarche qui nous permet de sortir. Mais là, on est dehors, parce que la Torah nous a donné cette liberté première, avant même la liberté de la sortie de l'esclavage. Même avant cela, la première chose qui nous arrive, en quelque sorte, alors qu'on était même encore esclaves de Paro. Parce que cette phrase, Chodesh Hazelachem, le premier Nissan, on n'est pas encore libéré. On sera libéré seulement dans la nuit du 14 au 15. À ce moment-là, Paro va dire, je vous libère, vous n'êtes plus mes témoins, vous n'êtes plus mes esclaves. Ce que Moshe Rabbeinu va lui imposer de dire. Mais jusque-là, on était encore esclaves formellement, on ne travaillait plus. Ça fait 6 mois qu'on ne travaillait plus. C'est vrai. Mais on était encore formellement esclaves. Et à ce moment-là, Hachem nous dit, vous allez dominer le temps. C'est-à-dire, c'est vous qui gérez le temps. C'est une chose absolument impensable. Je crois vous avoir déjà dit que en réalité, les Grecs, à l'époque de Hanouka, si vous voulez, les Grecs disaient c'est impensable, c'est complètement fou de prétendre gouverner le temps. Et par conséquent, ils nous ont interdit de pratiquer Rosh Chodesh. Pourquoi ils nous ont empêchés? Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? On apporte un korban. Ils ne nous ont pas empêchés d'apporter les korbanot. Est-ce que là, tu vas dire y aller Yahvé en Birkat Amazon? Ça les dérange? Non. C'est pas la pratique qui les dérange. C'est l'idée même de penser que c'est nous qui dominons le temps, alors que le temps, c'est le destin, c'est quelque chose qui s'impose complètement Ça donne toutes les tragédies grecques, etc. Bon, effectivement, les choses sont déterminées. Et donc chez nous, c'est pas comme ça. Ça veut dire que les rendez-vous avec Hachem, ils sont d'une certaine manière, ils sont pris en commun. Hachem dit c'est le 15, mais c'est nous qui disons qu'on sera le 15. Et cette maîtrise du temps, c'est aussi cette maîtrise du temps qui a fait que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de préparation à Matan Torah. Il a décalé Matan Torah d'un jour, justement pour que les Bnei Israël soient du côté de ceux qui définissent le moment où la Torah est donnée. Hachem m'avait dit au bout de 2 jours, troisième jour donnerait, et Moshe a ajouté un jour de préparation supplémentaire, qui est absolument incompréhensible, parce que si Hachem a dit qu'on était pur au bout de 2 jours, alors qu'est-ce qu'on est pur, plus pur que pur? On n'est pas dans les slogans publicitaires. Bon. Bon, Moshe Rabbeinu a dit, je veux que les Bnei Israël soient du côté de ceux qui donnent, parce que quand tu donnes, le moment où tu donnes fait partie du don. Si tu donnes un cadeau, tu le donnes comme cadeau d'anniversaire, de cadeau de mariage, de cadeau de, je ne sais pas, de fin d'études, etc. Le même cadeau, le même objet donné comme cadeau, il a un sens différent. Parce que tu as choisi, il est attaché à un moment différent de la vie de celui qui le reçoit, en tout cas. Eh bien, c'est la même chose. Le fait d'avoir été donné parce que un jour qui effectivement, bon, c'est Hachem qui, la Torah, c'est la Torah d'Hachem qui nous donne, c'est Hachem qui a dit, voilà, préparez-vous, etc. On s'est préparé pour Hachem, mais Moshe Rabbeinu a décalé, ça veut dire les Bnei Israël ont décidé quand aurait lieu le don de la Torah. Et donc, ils sont du côté du donneur et pas seulement du côté du receveur de la Torah. Moi, c'est une chose absolument énorme. Ça veut dire qu'avec ça, nous nous donnons d'une certaine manière à nous-mêmes la Torah. La Torah ne nous est pas donnée à nous et nous sommes récepteurs passifs. D'accord? Nous sommes à la fois du côté de ceux qui donnent, à la fois de ce côté de ceux qui reçoivent. Tout ça, c'est toujours cette maîtrise du temps. Et donc, qui vient avant la maîtrise de soi que va donner la libération. Et c'est pour ça que quand on dit quand on va manger la matzah, on prend la matzah, on dit matzah zou, cette matzah que nous mangeons, pourquoi est-ce qu'on la mange? On la mange parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire monter le. Alors on a déjà dit que c'est pas vrai. Ils auraient tout à fait le temps. Seulement, ils n'ont rien préparé parce que quand on leur a dit vous allez sortir d'Égypte, ça ne voulait rien dire. Mais en même temps, quand on dit ils n'ont pas eu le temps, on entend que la sortie d'Égypte s'est faite tellement vite. Il y a cette idée de Zrizout, de Berala, etc. Ceux qui disent au début du Seder, il y a ceux qui disent Etmol dans le Mont Sfarad, ou ceux qui disent Bibhilou dans la Berala, dans la presse. Ça veut dire, Hachem leur a dit, allez, vous allez manger, mais vous mangez sur le seuil, quoi. Vous êtes complètement en train de partir, quoi. C'est pas que on va manger, on va boire, pas du tout. Vous mangez et on part. Toujours cette idée de maîtrise du temps, ne pas laisser au temps la possibilité d'intervenir en quelque sorte. Et c'est comme ça que quand on dit, quand il y a une mitzvah qui se présente, Al Tach Mitzena, ne la laisse pas devenir Chametz, Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Cette mitzvah, tu pourras peut-être ne pas pouvoir la faire. Si tu la laisses devenir chametz, d'une certaine manière, il y a des situations dans lesquelles la mitzvah que tu imagines que tu peux faire encore dans 10 minutes ou demain matin, etc., tout à coup, on ne peut plus. Ça ne marche pas. Alors, cette mitzvah de Sippour Yetziat Mitzrayim, je vous ai dit que c'était un peu surprenant, je crois, parce que la mitzvah, c'est Sippour Yetziat Mitzrayim. C'est raconté. Et la Gemara, et le Limoud, il est, comme dit Rambam, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut raconter? On racontait le 15, etc. Parce que c'est marqué Veigadta levincha. Tu raconteras à ton fils. Or, le mot Veigadta qui va donner la Haggadah de Pessah, c'est intéressant que le texte que nous avons à Pessah ne s'appelle pas le récit de Pessah. S'appelle la Haggadah de Pessah. Et dans le mot Haggadah, comme dans le verbe le Hagid, etc., Chazal disent, parce que, comme vous savez bien, quand Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu d'enseigner, il lui a dit aux hommes, Taged, tu vas raconter, tu vas utiliser le mot taged, c'est la même chose que agada. Et dans agada, dans taged, etc., il y a la racine guide, guimel yudalet, si vous voulez. Un guide, c'est un tendon. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dur, on peut pas le... D'accord? C'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Aux hommes, tu vas raconter la Torah, tu vas leur dire des halakhot, des choses un peu sèches, quoi. Et aux femmes, pour les femmes, alors c'est pas taged, mais aux femmes, tu vas raconter. Aux femmes, tu vas dire les choses plus doucement. Tomar, c'est Amira. Amira, c'est la forme douce de la parole. Donc, tu ne vas pas leur dire des choses trop dures. Donc, quand on entend Haggadah, on entend une parole relativement dure, une halakha quasiment. Et donc, c'est curieux que la source de la notion de récit, elle est dans un verset qui utilise la forme dure de Haggadah. Bon, je crois que vous avez peut-être déjà dit que ça donne presque l'impression que on a un texte, le texte de la Haggadah, qui est un peu comme la Torah chez Birtav, comme la Torah écrite. On dit ça, on va dire tout ça. Et le récit, quand on dit que Kol Amarbel s'appelle Bitiat Misraim, Arezem Meshubach, que plus tu racontes avec ampleur la sortie d'Égypte, plus tu es digne d'éloge. Donc ça veut dire, ça te laisse toute la place pour l'imagination, comme quand on raconte des histoires. Tu vas raconter les choses, bon, tu vas rêver, tu vas. Voilà, c'est un récit qui n'est pas du tout. Ça ne consiste pas à lire un texte, mais raconter, tu racontes. Et donc, c'est comme si le récit en question comment dire, le Sipour Yetziat Mitzrayim, c'est un peu comme Torah Shebaalpeh, comme la Torah orale. C'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est aussi de l'imagination des Chachamim aussi, à partir d'une base, à partir d'un texte bien précis. Et donc, on a les deux choses à la fois. Quand on lit la Haggadah et qu'on raconte la sortie d'Égypte, on aura fait les deux choses. Maintenant, halakhiquement, on est yotzé, même si on fait que de lire la Haggadah. Donc, c'est un peu diévète, quasiment. On a l'impression que tu n'auras pas vraiment raconté, au sens où c'est pas ton récit. C'est le récit, que tout le monde peut faire. Et que tout le monde va faire aussi. Ça ne nous dérange pas que tout le monde le fasse, mais il n'y a pas de notion de... Quand on raconte, deux personnes ne racontent pas de la même manière. C'est le moment où on raconte que même un événement, les gens vont raconter avec leur subjectivité, avec leur façon de voir, avec le vocabulaire dont ils disposent, la langue qu'ils utilisent, etc. Et donc, on voit bien qu'il s'agit de faire les choses relativement rapidement, mais pas la rapidité, ça ne veut pas qu'on va en finir rapidement, quoi. Un peu comme les gens font la course pour savoir qui lit la Megillat Esther le plus rapidement possible. D'accord? Il n'y a pas non plus, il n'y a pas lire la Haggadah de Pessah aussi rapidement que possible. Au contraire, on prend du temps pour raconter, pour s'étendre, raconter. Voilà. Je vais voir avec vous. Ce que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, au moment où il l'a envoyé pour parler avec Paro, il lui a dit, la preuve que ce que je te dis est vrai, c'est que dans le futur, quand vous serez sortis d'Égypte, ta'avdoun et ta'elokim à la harazé, vous allez servir Elokim sur cette montagne. Là, au moment où il parle avec Moshe, c'est l'épisode du buisson ardent, c'est-à-dire c'est au Sinaï. Le buisson, il est au Sinaï. Et Hachem a dit, vous allez servir Hachem sur cette montagne, sur le Har Sinaï. Alors, on sait bien que les Bnei Israël n'ont pas fait vraiment de avoda sur le Har Sinaï, mais certains disent que d'avoir accepté la Torah, c'est déjà la même hauteur que servir Hachem. D'autres disent que c'est parce qu'il y a eu des korbanot. Bon, mais essentiellement, je crois que l'idée est plutôt que d'accepter de faire la Torah. C'est le commencement de la avoda. Alors, c'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Vezé haot, et le signe que c'est vrai ce que je te dis, qui l'articha, que je t'ai envoyé, pour sortir le peuple, sous-entendu d'Égypte, ta'avdoun et ta'elokim à la harazé. Vous allez servir Elohim sur cette montagne. Le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, il dit, Katuv, chez Moshe Rabbeinu, lo eminu bo, pipnei haotot chez Asa. Le Rambam dit, c'est écrit que la confiance que les Bnei Israël ont accordée à Moshe Rabbeinu, elle vient pas des miracles qu'il a fait. Chez Amaamin alpi haotot, parce que quelqu'un qui croit, qui fait confiance, ça veut dire, parce que La personne, elle lui a fait une démonstration de miracle, etc. Yesh belibo dofi, ou makom le safek. En fait, ça veut dire, en lui, il n'est pas vraiment sûr. Il n'est pas sûr qu'il faut vraiment faire confiance. C'est pas quelque chose de gagnant à coup sûr. Ve'hu sheta'an Moshe, sheha'emuna bo tiyeh bedofi. C'est ce que Moshe a dit, que la confiance qu'ils vont lui donner, c'est pas une confiance entière. Ve'hem, il a dit, hem lo ya'aminu li. Moshe, il est allé plus loin, il a même dit, ils vont pas me croire. Enraya, ça veut dire, il n'y a pas de preuve. Ah, il a fait des miracles, ça, c'est pas une preuve. Alze ana Akadosh Baruch Hu, là-dessus, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, mais Zelcha Aot, ce verset qu'on vient de lire, le signe que, effectivement, moi, je t'ai envoyé, c'est Tavdun et Elokim ala Arze, sur l'art Sinaï. Et quand ils seront au Sinaï, ils verront bien. À ce moment-là, ce sera tout à fait clair que ta prophétie, c'est une vraie prophétie. C'est-à-dire, tu dis vraiment des choses que je t'ai dit de dire. Et la question qu'on peut poser ici, c'est pourquoi c'est justement à cet endroit-là qu'on utilise le mot vous servirez. Au moment de Matan Torah, alors que on n'est pas en train de servir Hachem, on reçoit la Torah. Comment se fait-il que le fait de recevoir la Torah soit décrit par les psukim, par le passouk, par Avoda? Ta'avdoun est un où est la Avoda? Il n'y aura pas d'Avoda, ils ont reçu la Torah. Après Moshe, quand quelqu'un vient se présenter et va se présenter comme prophète, on va lui demander des signes. Mais ce n'est pas qu'on va faire entièrement confiance aux signes, mais il y aura aussi nécessité qu'il montre des choses. Mais comme la mitzvah, c'est s'il y a un prophète, alors tu l'écouteras, Elav Tishmeoun, c'est marqué dans la Torah, et que tout est, en vérité, tout repose sur la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui lui avait une prophétie d'un genre différent. La prophétie de Moshe, c'est pas la prophétie des autres. La prophétie de Moshe, elle n'existe que chez Moshe. C'est ce qu'Hachem a dit à Aaron et Myriam quand ils ont pensé que leur prophétie à eux, ils étaient prophètes, était comparable à celle de Moshe. Hachem a dit à Aaron et à Myriam, n'ont rien à voir. Alors, c'est ce que disait Moshe au départ, mais finalement, tous les prophètes vont devenir prophètes en manifestant des signes. Ils vont dire des choses. Et ils vont être confirmés, bon, ça va se passer comme ils ont dit. Et c'est là que il y a ce fondement de la sortie d'Égypte et du Matan Torah. Voilà, c'est là-dessus que c'est fondé. Hazal disent que quand Akadosh Baruch Hu libère littéralement, il rachète Israël, il est racheté avec eux. Parce que c'est marqué dans le passouk, הלכו אלוקים לבדות לו לעם, ולשום לו שם, אשר פדית לך ממצרים גוי, גויים ואלוקיו. En fait, c'est un passage dans le Navi Shmuel. Il faut dire, Hachem, lui aussi, il a été racheté au moment de la sortie d'Égypte. C'est Hachem dit, Atem id edai, vous êtes mes témoins, vani kel, et moi je suis Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes mes témoins, alors moi je suis Dieu. À plusieurs endroits, on a une formulation analogue à ça. Dans la Shira, on dit Zekeli ve'anveu, il est mon Dieu et je vais l'embellir. Quand est-ce qu'il est Nae? Quand est-ce qu'il est beau, s'embellit? Lorsque moi, je le reconnais. Zekeli, lui, c'est mon Dieu, c'est lui. Et sinon, bon, son nom est beau, mais c'est jamais qu'un nom. Comme c'est marqué, justement, ce Zekeli Vanveo, la Gemara elle dit, non, c'est un Mechilta. La Mechilta elle dit, Vechi Efchar l'Anvot Kono. Est-ce qu'on peut embellir son créateur? Et là, et nae le fanav mitzvot. Quand on dit je vais l'embellir, ça veut dire je vais m'embellir moi dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire, c'est une façon de montrer qu'Hachem est présent dans le monde. Et comment est-ce qu'on le fait? Parce que quand le clan Israël, qui eux font confiance, et grâce à leur confiance, ils établissent une certaine réalité d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire Edai, Edekiyum, ils témoignent que ça existe, ils témoignent qu'Hachem existe, les Bnei Israël. Donc, Areu Nae Bishmo, sinon, ben, c'est seulement pour lui, s'il n'y a pas de témoignage. Alors lui, il sait qu'il est Dieu, mais il n'y a que lui qui le sait, en quelque sorte. Dans le monde, c'est seulement quand Hachem a racheté le clan Israël, racheté au sens, il l'a racheté à Paro, quoi. Il était esclave de Paro et Hachem, en quelque sorte, a acheté le clan Israël. En les faisant sortir, en donnant la Torah, d'accord? Du coup, ça, c'est comme si ça fait exister Hachem dans le monde, parce qu'il y a des Juifs qui reconnaissent la Torah, qui le servent, donc ça le fait exister dans le monde. Et Hachem dit, Ani yotse mitor mitzrayim. Moi aussi, je sors d'Égypte. Sinon, je suis Dieu pour moi-même, donc. J'existe pas dans le monde comme Dieu. Donc la confiance que nous avons en Hachem, notre Emouna, c'est elle qui fait exister le Créateur dans le monde. La Emouna d'Ebnei Israël, par exemple, qu'il y a une notion de Triat HaMetim, qu'il y a une notion de résurrection, c'est parce que Nemanata la Chayot Metim. Ipnesha Anachnu Ma'aminin Beze. Comme nous disons dans la Shemoneh Esrei, tu es fiable et tu vas faire revivre les morts. C'est parce que nous croyons en cela. Donc, quelque part, ça existe dans le monde. C'est-à-dire, il y a une notion de vie au-delà de la mort. La réalité, c'est qu'il y a la mort. Dire qu'il y a quelque chose après la mort, c'est seulement parce que nous, on y croit. Sinon, on ne voit rien de tout ça. C'est construit sur Neman, nous disons à Hachem, tu es fiable. Nous te croyons, nous te considérons comme fiable par rapport à ça. Tu as promis qu'il y aurait et nous te croyons. La prière, que la prière soit efficace, c'est parce que nous y croyons. Donc, c'est que la prière va éveiller un ratson d'Hachem, éveiller une volonté divine. Il y a des tfilotes où il n'y a rien d'autre que le fait qu'on y croit. Donc, par exemple, les Yud Gimel Midot, les 13 Midot de Rachamim, Hachem Hachem, Kel Rachum V'Chanun. On ne demande rien là-bas dans cette prière. C'est juste des louanges. Hachem Hachem, tu es Kel Rachum V'Chanun, etc. Donc, en mentionnant toutes ces qualités, si on peut parler comme ça d'Hachem, alors, d'une certaine manière, elles existent dans le monde. Elles existent puisque j'en ai parlé. Mais au début, quand le Nachash, quand le serpent a fait fauter Adam et Chava, et qu'il leur a laissé une espèce de trace en eux, ça s'appelle cette zohama. C'est-à-dire qu'il a mis du flou dans le monde. Et pour qu'on revienne à une situation où les choses soient parfaitement claires, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à Hachem, ça n'est possible que par le biais de la Torah. La Torah, elle ramène le monde dans l'état où il était avant la faute. Avant qu'il y ait une certaine ambiguïté. C'est pour ça que Yetziat Mitzrayim, on dit, je te donne une garantie que c'est vrai, parce que vous allez servir Hachem sur la montagne en question. En même temps, même temps qu'on sera sur la montagne pour servir Hachem, à ce moment-là, quand les Bnei Israël ont accepté la Torah, la Zohama, elle a disparu. Cette espèce de saleté initiale que le Narach avait mis dans l'humanité, ça a disparu au Sinaï. Donc c'est dans le processus du don de la Torah et de la vie selon la Torah qu'il va y avoir une réalité complète à laquelle en fait, on pourra croire et à laquelle on pourra faire confiance. Comme on dit, Torah Hashem Tmima, la Torah d'Hashem, elle est parfaite. C'est-à-dire, parfait au sens, il n'y a aucun doute. C'est Edut Hashem Nehemana, le témoignage d'Hashem, il est fiable. Et c'est pour ça que Markimat Peti, c'est pour ça qu'elle rend intelligent, celui qui ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire, il faut produire de la tmimout, cette entièreté, cette confiance absolue dans le cœur. Quand les Bnei Israël étaient au Sinaï, c'est marqué, Hachem a dit, je vais te parler de telle sorte que m'ayant entendu te parler, les Bnei Israël, gam becha yaminu leolam. ils auront confiance en toi définitivement. C'est-à-dire une confiance qui ne pourra plus être ébranlée. C'est ça le ta'avdoun, vous allez servir. Lachon avdout, c'est lachon esclavage, littéralement. On parle toujours de la Torah, mais ici, on parle de faire en sorte que disparaisse cette ambiguïté, ce dofi dont parle Rambam. Ça va en même temps que faire disparaître cette zoama, cette saleté initiale. C'est pour ça, ta'abdoun, vous allez servir. Et Hachem a parlé avec Moshe, à ce moment-là, il parlait. Au moment du buisson ardent, il y avait ce buisson qui était en train de brûler. Et il lui a enseigné les noms d'Hachem. Hachem a donné son nom à Moshé. C'est pour ça que la Géoula, la libération, ici, c'est au début, c'est seulement nous faire échapper à une situation d'esclavage. Mais ce n'est pas seulement ça en réalité. D'accord? On n'est pas sorti d'Égypte simplement pour ne plus être esclave. La Géoula, c'est un processus de dévoilement des noms divins. Et noms divins, c'est les différentes façons qu'a Hachem de gouverner le monde. Là, au Sinaï, au buisson plutôt, et après au Sinaï, les Bnei Israël ont appris les secrets de tous les noms divins. Et c'est ça l'idée que quand Hachem dit, j'ai été racheté avec les Bnei Israël, c'est-à-dire, Onochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Et dans Matan Torah, on va voir ça clairement. Et les Bnei Israël vont apprendre la Torah grâce à cette clarté-là qu'ils auront à ce moment-là. Mais tout commence par Hotzeticha Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Égypte. À ce moment-là, mon cher Rabbi nous a vu qu'il est, c'est pas simplement, il n'est pas simplement envoyé comme un prophète ordinaire. Mais que ici, il y a un processus dans lequel Hachem se rachète lui-même en même temps que les Bnei Israël. Et grâce à cela, il existe dans le monde, en fait. Il est visible dans le monde. Il y a la réalité de ces différents noms divins qui sont à l'œuvre dans le monde. Alors, bien entendu, si Hachem est présent, ça peut pas coïncider avec une situation ambiguë. Si Hachem est présent, alors les choses doivent être absolument clarifiées. Et c'est ça la réponse. Ta'avdoun et ta'elokim à la harazé, c'est-à-dire faire confiance à la Torah va en fait agir sur l'âme des Bnei Israël, et cette âme, elle va être, disons, libérée de cette ambiguïté essentielle qu'il y avait, pour dire que Torah Tachem Tmima. Ils atteignent une certaine tmimout, être entièrement avec Hachem, sans aucun doute. Donc, quand Moshe Rabbeinu a dit, mais ils vont pas me croire, alors Akadosh Baruch Hu lui a montré, il a montré l'histoire des serpents, C'est-à-dire, parce que tu soupçonnes l'Ebné Israël de ne pas te croire, alors tu redonnes de la force au serpent, c'est-à-dire tu remets de l'ambiguïté. Donc on voit dans le Rambam en question que un Ben Noach, il doit faire les mitzvot parce que Moshe, dans la Torah, il a reçu l'ordre que il faut, en lui disant, les bnei Noach sont astreints à cela. C'est parce que ça a été dit à Moshe que les bnei Noach sont obligés de le faire. Et donc, si un ben Noach fait les mitzvot, mais uniquement parce qu'il y a une tradition qui lui permet de faire les choses, parce que la tradition, elle remonte jusqu'à Noach même, mais ça passe pas par Moshe, alors ça s'appelle pas un Guer Toshav. Il va pas s'appeler, et il a Eno Yachol Leikare Guer Toshav. Il va seulement être appelé Mechassidei Umot HaOlam. Il fait partie des pieux parmi le monde. Et donc c'est ça effectivement ce que on veut tirer de cet enseignement-là. C'est jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y avait une prophétie, c'était la prophétie de Noach. Noach aussi il était prophète. Mais évidemment, si un prophète vient après Noach et il dit le contraire de ce que disait Noach, il n'y a pas de dîne d'infaillibilité de Noach. Nulle part il est dit qu'on ne peut pas contredire ce que dit Noach, qu'il ne peut pas y avoir une prophétie différente de Noach. Donc jusqu'à Moshe, les sept mitzvot d'Ebné Noach, bon, elles sont là, mais on pourrait imaginer de les supprimer. Et donc ça veut dire le monde qui tient grâce aux mitzvot, il tient sur des mitzvot qui pourraient être annulées, puisqu'on pourrait contredire la tradition de Noach. Donc ça veut dire que le monde n'est pas ne repose pas sur un socle absolument clair. Aujourd'hui, il y a un monde avec la Torah, alors même les sept mitzvot d'Ebné Noach, si elles passent par ce que Moshe Rabbeinu en a dit, ce qui est écrit dans la Torah, alors, puisque c'est dit sur Moshe Rabbeinu et qu'on ne peut pas contredire la nevoie de Moshe, c'est définitif. Alors ça va donner un caractère définitif au monde, en quelque sorte. Le monde, même dans la version des Bnei Noach, il est définitivement installé. Il ne peut pas être remis en question. Il ne peut pas être, peut pas dire que ben finalement, non, c'est plus les sept mitzvot. Peut-être, je sais pas, ça sera un ensemble de lois concoctés par des spécialistes, etc. Ils n'ont pas la possibilité, si une fois que ça a passé par Moshe, n'ont pas la possibilité de remettre ça en question. Voilà, je le dis.